Un de mes dessins humoristiques favoris, ça représente un couple chrétien qui doit avoir la cinquantaine. Ils sont bien installés dans leur salon au coin du feu. Et lui, l'homme, il est en train de lire un livre qui s'appelle, on voit le titre, « Comment être soumise à votre mari ». De l'autre côté, la femme, dans un fauteuil tout aussi confortable, elle lit avec une grande concentration « Comment aimer votre femme ?» Et ça, c'est un petit clin d'œil. Ce petit dessin résume un peu notre tendance à vouloir le changement chez l'autre plutôt qu'en chez nous-mêmes. Et dans notre passage aujourd'hui, Pierre s'adresse justement aux femmes et aux maris. Et je fais une petite parenthèse. Aujourd'hui, le célibat des prêtres est un dogme un peu battu en brèche dans l'Église de Rome, dans l'Église catholique. Mais le premier pape, Pierre, était un homme marié. Le Nouveau Testament ne nous parle pas directement de son épouse, mais il est question de sa belle-mère. On a toutes les raisons de penser que c'était la mère de sa femme. Et dans Marc 1, à la fin, dans le chapitre 1, versets 30 et 31, il est dit que la belle-mère de Simon, c'est-à-dire Pierre, était couchée, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on en parla à Jésus, il s'approcha, la fit lever en lui saisissant la main. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Donc Pierre, il parle un peu en connaissance de cause, on peut imaginer. De toute façon, c'est le Saint-Esprit qui l'inspire. Et on peut prendre ses paroles comme des paroles de vérité. Alors replaçons un peu le contexte de 1 Pierre. Vous savez que c'est écrit, on pense, en l'an 64, dans cette période où la persécution avait commencé à Rome sous le règne de l'empereur Néron, qui était, on dirait aujourd'hui, un psychopathe. Et la persécution était très dure, et Pierre voulait mettre en garde et prévenir les habitants de ce qu'on appellerait aujourd'hui le Moyen-Orient, l'Asie. Ceux qui sont les chrétiens qui étaient, le premier verset nous dit, au pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie mineure et en Bithynie. Il voulait les mettre en garde contre cette persécution qui arrivait. Il voulait les fortifier dans leur foi. Nous avons vu qu'il les exhorte à considérer la bienheureuse espérance, l'espérance vivante qu'ils ont en Christ. Certes, la vie est difficile, la vie va être difficile, mais ce n'est pas une raison pour détourner nos yeux, notre cœur de la foi en Christ et en Dieu, parce que la vie, elle est, la vie ici-bas, elle est très transitoire, très rapide. Alors bien sûr, on est choqué lorsque des jeunes sont tués, comme il y a 2 semaines dans ce théâtre du Bataclan ou à la terrasse de ces cafés. Mais même si on y regarde bien, la vie, elle est très courte. Il semble que lorsqu'on est enfant, le temps passe plus longtemps. Les vacances d'été, lorsque j'étais enfant, c'était waouh. En plus, à l'époque, on était en vacances du 1er juillet au 30 septembre. On avait 3 mois de vacances. On avait moins de vacances tout au long de l'année. Mais ça semblait comme une éternité bienvenue et merveilleuse. Aujourd'hui, les mois passent. On arrive mardi, je crois, c'est déjà le 1er décembre. Où est passé 2015 ? Ça va très vite. Mais la bonne chose, c'est qu'il y a une éternité derrière. Dieu a mis dans nos cœurs le sentiment de l'éternité. Qu'on le veuille ou non, on s'attend à quelque chose après la mort. Certains vous disent, non, il n'y a rien après la mort. Et puis, je parlais avec un étudiant. Je vous invite, si vous êtes intéressé à témoigner dans la rue, à venir me rejoindre. On a toujours des conversations passionnantes, intéressantes, qui montrent un peu combien nos contemporains sont loin de Dieu. Et ce jeune homme pensait que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a rien après la vie, aussi peut-être la réincarnation. Et je lui demandais en quoi il aimerait être réincarné. Il m'a dit, j'aimerais être réincarné en quelque chose qui en jette, comme un lion, ou un tigre, ou un crocodile, ou un aigle. Je lui ai dit, mais est-ce que tu as le choix de la bête que tu vas devenir en te réincarnant? Qu'est-ce que c'est si jamais tu te réincarnes en fourmi? Et donc il y a cette attente dans le cœur, et l'Ecclésiaste nous le dit, Dieu a mis ce sentiment dans nos cœurs. Et la Bible nous affirme qu'il y a une vie après la mort. Et que c'est ça qui compte. Qu'ici-bas, nous sommes, comme qui dirait, nous faisons nos classes, nous nous préparons à cette éternité future. Il nous invite à la raison pour laquelle Dieu nous garde en vie ici-bas, après que nous venions à lui et que nous soyons sauvés, c'est d'annoncer ses vertus. Verset 9 du chapitre 2, Pierre nous dit, « Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, c'est-à-dire une prêtrise royale, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Quelque part, ce serait plus simple si, une fois qu'on était sauvé, on était translaté dans le ciel, on était tout de suite en présence de Jésus-Christ vivant, visible, dans toute sa magnificence, dans toute sa gloire, on n'aurait pas à continuer à souffrir sur cette terre. Mais, si vous y pensez bien, qui vous aurait annoncé l'Évangile ? Nous sommes appelés à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Une lumière admirable. Nous n'avions pas obtenu miséricorde et maintenant nous avons obtenu miséricorde. Donc il va se préoccuper d'annoncer à ces gens qui sont déjà persécutés, qui sont menacés par la persécution. Il y a quelque temps, on aurait pu penser que cette idée de persécution, c'était une idée du passé. Maintenant, dans le monde dans lequel nous vivons, on se dit que la persécution, elle a déjà affecté nos frères et sœurs au Moyen-Orient, en Afrique, et que rien ne garantit que nous, un jour, peut-être très proche, nous ne serons pas aussi, nous aussi, persécutés. Et donc, il leur explique que pour toucher et annoncer ce merveilleux salut, ce merveilleux Jésus qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière, il nous explique qu'il faut rester ici-bas et vivre d'une certaine façon. Et de façon surprenante, il va nous annoncer en fait que le plus puissant des témoignages, ce n'est pas des lettres d'or ou des dans le ciel, ce n'est pas des rassemblements spectaculaires, ce n'est pas toujours plus de moyens matériels, financiers, de ressources en ordinateur, en site web. Toutes ces choses ont leur place et sont bonnes, mais de façon surprenante, le meilleur témoignage, c'est, vous êtes prêts pour ce mot, la soumission aux autorités. C'est tout. Je vais changer, je vais prendre une religion plus glorieuse qui m'appelle à mourir peut-être, mais après je retrouve la gloire. Non, la soumission, l'humilité, et ça c'est la caractéristique de Jésus-Christ. Lui qui s'est humilié, nous dit Paul dans Philippiens, jusqu'à la mort sur la croix. Il aurait pu faire un ramdam. Ramdam, c'est un mot français qui veut dire beaucoup de bruit et qui vient de ramadan. Je ne sais pas trop la relation. C'est qu'on fait la fête après le jeûne. Mais l'histoire, ça aurait pu être des moyens spectaculaires mis en œuvre, des tremblements de terre, des montagnes qui s'écroulent, une voix terrible, une voix rugissante qui dit « Je suis le Fils de Dieu ». Si vous ne venez pas à moi, vous périrez en enfer. Mais Jésus s'est humilié. Il a pris la place du tout petit. Il s'est incarné. On va célébrer cela bientôt. À Noël, il a pris la place d'un. Il a pris la peau. Il est venu sous la forme d'un petit bébé. Il aurait pu venir sous la forme d'un grand président pour lequel on bloque tout le trafic à Jérusalem et dans les alentours pendant la grande conférence. Mais il a choisi de se faire le plus petit parmi nous. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est petit ne nous intimide pas. Si le président Barack Obama arrivait ici, pendant qu'on parle, on serait tous « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» On aurait sans doute beaucoup de services d'ordre et de groupes de raids et je ne sais quoi qui seraient déjà là. Mais on aurait un peu du mal à parler à cet homme. Par contre, lorsque on voit Samuel, le petit garçon de Madeleine, où on voit Daphné, petite fille de Tonio et Lindsay. On s'approche sans crainte et on essaie de solliciter une réponse. Daphné va peut-être vous donner un mauvais regard, comme elle a commencé à le faire, mais ne vous inquiétez pas, elle fait ça avec tout le monde. Mais l'humilité, c'est la façon d'aborder les gens, et il va passer du plus grand au plus petit, au plus étroit, dans les cercles dans lesquels nous vivons. D'abord, nous vivons avec un gouvernement, et il nous invite à nous comporter avec soumission vis-à-vis des autorités. On a vu ça déjà au chapitre 2. Et puis après, il a parlé aussi de nos employeurs. À l'époque, c'était les maîtres des esclaves. Et on l'a souligné, les esclaves n'étaient pas nécessairement traités de façon abjecte. Ça pouvait être des hauts fonctionnaires même pouvaient être esclaves de certains personnages. Donc il n'y avait pas cette association à faire avec les esclaves martyrisés, et ça pouvait se passer aussi. Mais on doit être soumis au gouvernement, on doit être soumis à nos patrons. Ça, c'est une idée aussi qui n'est pas bien acceptée aujourd'hui. Souvent, on oublie que si on est employé par quelqu'un, c'est que cette personne a pris des risques, cette personne a eu des idées, cette personne a eu de la persévérance pour les mettre en place, et qu'on leur doit un certain respect, même s'ils n'ont pas toujours que des bonnes idées. Mais la Bible nous appelle à être soumis. Le mot soumission, encore une fois, a très mauvaise presse aujourd'hui, mais c'est un mot qui veut simplement dire être sous l'autorité de quelqu'un pour que l'ensemble soit ordonné. Dieu n'est pas l'auteur du chaos. Dieu est l'auteur du cosmos, d'un monde ordonné. Et il veut que nous participions à cet ordre en nous soumettant. Le mot de soumission n'implique pas du tout une valeur moindre de la personne qui se soumet à celle qui est en position d'autorité. Souvent aujourd'hui, on fait cet amalgame et on pense que si je suis soumis à une autorité, ça veut dire que je vaux moins que cette autorité. Mais ça n'est pas le cas du tout. Le capitaine est soumis au colonel, ça ne veut pas dire que le capitaine ou le sergent est soumis au colonel, ça ne veut pas dire du tout que le sergent est une personne moindre que le colonel, qu'il n'a pas autant de valeur, autant de potentiel, autant d'idées brillantes, autant de valeurs humaines, de caractère que son supérieur. Mais pour que l'ensemble puisse fonctionner, il faut qu'il y ait un ordre respecté. Et après avoir parlé des gouvernements, de nos employeurs, des relations entre employés et employeurs, à l'époque entre maîtres et esclaves, il aborde maintenant les relations à l'intérieur d'un couple marié. Et on va lire ensemble les versets 1 à 7 du chapitre 3. Si vous voulez suivre avec moi. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que, même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteaux élégants, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille, voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les descendants si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme co-héritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Amen. Sachez que vous êtes privilégiés de pouvoir entendre un sermon sur ce passage. Il y a beaucoup d'églises où on évite soigneusement de toucher ce genre de sujet, non seulement des églises chrétiennes en général, mais des églises protestantes et même des églises évangéliques. J'entendais un pasteur qui prêchait sur ce sujet et qui se félicitait d'avoir adopté la prédication verset par verset pour aborder les passages bibliques, parce qu'il se disait qu'en fait, jamais avant d'avoir adopté cette méthode, il n'avait osé parler de ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'en ce jour de libération de la femme, de capacité de la femme à faire beaucoup de choses que les hommes font, ce texte peut paraître rétrograde, ce texte peut paraître archaïque, machiste, datant d'une autre époque. Mais on va voir qu'en fait, ce texte, Dieu nous l'a donné parce qu'il est la vérité. Et que si nous recevons ce texte et son enseignement, nous allons être bénis. Vous avez remarqué qu'il s'adresse d'abord aux femmes, vous de même femmes, soyez soumises chacune à votre mari. Et puis il va y avoir 6 versets, et puis à la fin il va dire, vous de même mari, vivez chacun avec votre femme. Il y a 6 versets pour les femmes et 1 verset pour les hommes. Alors déjà, il y en a qui disent ça. Je savais bien que Paul et Pierre et tout ça, c'était des machos. Comme si on ne pouvait pas comprendre. Non, l'idée, c'est que à l'époque, il y avait des femmes qui se convertissaient. Là, on ne va pas compter, mais c'est vrai qu'il y a souvent plus de femmes qui viennent à Christ que d'hommes. C'est historiquement ce qui se passe, ça n'a aucune raison d'être bibliquement. Et il y a des pays où ça n'est pas le cas. Je vois aux États-Unis, dans l'église d'où je viens, il y a autant d'hommes, sinon plus, que de femmes. La structure de la famille était telle à l'époque que si un homme se convertissait à la foi chrétienne, il emmenait toute la famille, sa femme la première, à venir assister à des réunions, à des enseignements, à venir à l'inviter à adopter sa foi. Par contre, si c'était la femme qui se convertissait, c'était beaucoup plus difficile pour elle de faire venir son mari à la foi en l'invitant à des réunions, en l'invitant à des cultes. Et donc, il va donner plus de détails à la femme qu'au mari en volume, mais rassurez-vous, ce qu'il demande à l'homme n'est pas plus naturel que ce qu'il demande à la femme. Vous de même, deux fois il reprend cette expression, et c'est parce qu'il fait référence à Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre exemple en toutes choses. L'attitude que l'homme a envers sa femme et que l'attitude que la femme a envers son mari doivent être des attitudes comparables à celles de Jésus-Christ. Si nous relisons verset 20 du chapitre qui précède tout de suite, « Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché ?» Là, c'est un raisonnement puissant qui dit « Ne dites pas que vous êtes persécutés si c'est vous qui faites des bêtises, qui ne respectez pas les lois en vigueur, etc. » Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple, un modèle, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retourné vers le berger et le gardien de vos âmes. Nous sommes appelés à avoir une attitude dans la sphère la plus intime de notre vie, celle de notre couple, qui est semblable à celle de Christ. Et je reconnais que pour être à la hauteur, nous avons besoin d'être loin, d'être inspirés, d'être fortifiés, soutenus, dirigés par le Saint-Esprit. Et donc, voyons ce qu'il dit à propos de l'attitude que la femme doit avoir envers son mari. Soyez soumise. Encore une fois, c'est ce mot. Je vais vous l'apprendre comme ça la prochaine fois que vous voulez rappeler ce principe de soumission. C'est le mot hupotasso. Hupo, c'est le mot hippo qui veut dire en dessous. Et tasso, ça veut dire mettre, organiser les choses. Donc, être soumise, c'est pas être traité de façon insultante ou abjecte, c'est simplement se fier, se plier à un ordre. Et c'est Dieu qui a institué, qui a créé l'homme et la femme, et c'est Dieu qui a institué ses principes, qui a institué le mariage. C'est pas la Marianne qui décide qu'est-ce que c'est que le mariage. Nous sommes devant une déliquescence de notre société parce que notre société rejette l'influence de Christ, de Jésus-Christ. Et vous devez être soumise, non pas parce qu'ils sont merveilleux, vos maris, parce que même, alors encore une fois, ce n'est pas vraiment un enseignement sur le mariage à proprement parler. Un meilleur passage serait le passage d'Éphésiens 5, qu'on a déjà vu et revu, qu'il est toujours bon de voir et de revoir. C'est encore l'idée de gagner à la fois votre mari qui ne croit pas, ou qui est loin de Dieu parce qu'ils n'obéissent pas à la parole, mais ils vont être gagnés à Christ sans parole, par la conduite de leur femme. Lorsqu'il est dit sans parole, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas avoir recours à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous conduit à lui. Dans Jean 5, il est clair qu'il y a des versets qui nous parlent que c'est la parole qui nous montre que nous devons être sauvés et qui nous conduit à Christ. Là, c'est sans parole de la personne, sans parole de la femme. Notez bien que Pierre ne dit pas « quittez votre mari s'il n'est pas converti et que vous, vous êtes converti ». Ça pourrait être une tendance ou une conclusion logique en disant « mais je suis converti, je crois, je veux vivre pour Jésus et lui ne le connaît pas, ne le reconnaît pas, je le quitte ». Non, ce n'est pas une option. Vous devez rester avec eux et ce n'est pas en leur cassant les pieds avec votre foi, en mettant des versets sur le miroir pour que le matin, quand ils se rasent, ils puissent voir la parole. Ce n'est pas en rabâchant des versets ou des diatribes contre lui, en lui disant qu'il est un mécréant, que ce n'est pas étonnant que sa vie soit dans l'état où elle est. Non, c'est... Vous devez les gagner sans avoir recours nécessairement à des mots, des paroles, mais par votre conduite, la conduite de leur femme. Et ils vont voir votre conduite pure et respectueuse. Respect. On a mentionné le chapitre 5 de la lettre aux Éphésiens. Dans ce chapitre, il y a un verset essentiel qui dit que Marie, aimez vos femmes, femmes, respectez vos maris. Le plus grand besoin d'un homme, ce n'est pas d'être aimé, même si c'est très important, c'est d'être respecté. Dieu a fait l'homme de cette façon. Il a besoin de se sentir respecté, encouragé, pour pouvoir justement prendre ce rôle de responsable de la famille, de leader. Une conduite pure, une conduite chaste, d'autres traductions disent, respectueuse. Cette notion est vitale. Est-ce que vous respectez votre mari, même s'il n'est pas encore chrétien ou s'il est moins préoccupé des choses de Dieu que vous nous l'êtes? En fait, si vous le traitez avec les égards que Jésus-Christ vous invite à suivre, il y a de grandes chances pour que votre conjoint, votre mari, apprécie beaucoup la façon dont vous le traitiez. Et logiquement, normalement, ça va le pousser à considérer ce qui fait que vous le traitez de cette façon si agréable pour lui. Avec respect, avec chasteté. Chaque fois qu'il est question d'être soumis à une autorité, la parole est claire que ça va jusqu'à un certain point. Si on vous demande, si cette autorité, que ce soit le gouvernement, que ce soit votre employeur, que ce soit votre mari, si cette autorité vous demande de faire des choses contraires à la volonté de Dieu, il est tout à fait normal, légitime de dire non. Et donc, il n'est pas question d'être soumis à son mari dans tous les domaines. On peut imaginer que des maris qui traitent mal leur femme, physiquement, même sexuellement, vous n'avez pas à recevoir ça sans broncher. Ce sont des considérations aujourd'hui. On a tendance, justement, parce qu'il y a beaucoup de violences qui sont faites aux femmes, à réagir en disant que la femme n'a pas à être soumise à l'homme dans son mariage. Notez bien qu'il n'est pas question qu'une femme soit soumise à tous les hommes, ou qu'elle soit, c'est simplement réservé à la relation dans le mariage. Soyez soumise à votre mari. Ça, c'est important de le souligner, parce que certains peuvent utiliser ces textes comme des prétextes sans contexte pour imposer leur volonté de façon totalement mauvaise et fausse. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteaux élégants, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Nous avons tendance à privilégier ce qui est extérieur, et les femmes ont cette tentation aussi de soigner bien l'extérieur. Lorsqu'il est dit « n'ayez pas pour parure », c'est le mot qui vient du mot « cosmos ». La parure, ce qui est beau, c'est ce qui est bien arrangé. Notre cosmos, et plus nous faisons des découvertes scientifiques, plus nous sommes émerveillés de sa structure, de son ordre. Et comme je le disais, le contraire du cosmos, c'est le chaos. Et les hommes comme les femmes, souvent lorsqu'on se lève et qu'on se regarde dans la glace, dans le miroir, c'est plutôt le chaos que le cosmos. Et notre tendance, c'est de dire « bon, mais je vais remédier à ça, je vais me raser, je vais me peigner, pour certains c'est très facile, ça va très vite ». Je vais mettre des manteaux, des belles choses, des vêtements élégants, des ornements d'or, des bijoux. Alors, il ne dit pas qu'il faille complètement se comporter comme un souillon, ne pas se soigner son apparence physique extérieure, mais ce qui compte, c'est la parure cachée du cœur. Ce qui est à l'intérieur. Et souvent, on est attiré par l'aspect extérieur d'une personne, mais c'est lorsque l'on commence à connaître la personne que l'on voit une beauté intérieure qui nous captive. Si on est simplement intéressé par l'aspect extérieur, tôt ou tard, on va déchanter. La parure intérieure, l'ornement intérieur, il est inaltérable. La beauté du caractère d'une personne, personne ne peut lui prendre, et notamment le poids des ans ne peut pas prendre cette beauté. Une personne peut être âgée, mais avoir toujours cet esprit doux, tranquille, c'est une beauté inaltérable. Et ce qui est intéressant, c'est que on a du mal à cacher un intérieur qui n'est pas beau par du maquillage. Vous avez tous peut-être en tête des personnes qui sont maquillées de façon outrageuse, qui n'attirent pas vraiment l'émotion de beauté. Notamment nos modèles, nos top modèles. On les appelle des modèles de quoi ? Des modèles de richesse intérieure. Le plus souvent, c'est simplement l'extérieur qui dure quelques saisons de défilé de mode. La parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Un esprit contrôlé par Dieu, par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Un esprit qui ne cause pas du chaos. Il y a des personnes qui peuvent être belles extérieurement, mais quand on s'approche d'elles, c'est le chaos, il n'y a pas cette concentration spirituelle, il n'y a pas cette vie spirituelle intérieure. Non seulement c'est les hommes, les maris de ces femmes vont l'apprécier, mais c'est une bonne chose devant Dieu. C'est d'un grand prix devant Dieu. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que souvent, lorsque l'intérieur est beau, cela rejaillit sur l'extérieur. Pas besoin de gagner un concours de beauté pour être belle, même de l'extérieur, si l'intérieur amène la paix. Si on a l'habitude de sourire parce qu'on a cette paix intérieure, les rides vont être belles. La personne va continuer à être d'une grande beauté. Par contre, l'inverse, comme je le disais, est difficile. On peut mettre tout le maquillage qu'on veut, s'il y a une méchanceté à l'intérieur, on peut être maquillé comme une Jézabel, et ça n'émeut personne. Et il fait référence aussi aux saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Ce n'est pas une nouvelle idée, ce n'est pas une idée ancienne qu'on devrait abandonner parce que maintenant on est affranchi de cette philosophie machiste, judéo-chrétienne machiste. Non seulement on doit continuer à vivre ça, à appliquer ces principes, mais dans le passé déjà, les saintes femmes dont il est question dans les Écritures, elles aussi se paraient de cet esprit doux et tranquille. Il y a un magazine chrétien qui s'appelle justement « Un esprit doux et tranquille » destiné aux femmes et qui les encourage dans cette recherche d'une conduite pure et respectueuse et d'une soumission dans le mariage. Et puis il prend l'exemple de Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Ça fait un moment que Nancy m'a appelé son Seigneur. Je crois même qu'elle ne m'a jamais appelé son Seigneur et c'est très bien. Mais elle me montre de l'amour et du respect. Dans la Genèse 18-12, c'est en fait le seul moment où on voit Sarah appeler Abraham son Seigneur. Et en fait, c'était pas très flatteur. C'était peut-être pour lui permettre d'encaisser le coup. C'est lorsque l'ange avait annoncé à Sarah que, verset 10 du chapitre 18, « Assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux d'un âge avancé. Et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ça faisait longtemps qu'elle avait eu sa ménopause. Et puis Abraham n'était pas tellement mieux. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » Donc c'est, si votre mari vous dit de l'appeler Seigneur, vous pouvez lui rappeler que c'était utilisé dans un cadre peut-être pas très, très favorable. Certains pensent quand même que le temps dans lequel Pierre utilise cette expression voudrait dire qu'elle l'avait fait plus d'une fois. Et peu importe, Pierre dit, c'est d'elle que vous êtes venus des descendantes si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Un beau titre, c'est de vous faire appeler les filles de Sarah. Est-ce qu'on vous a déjà appelé fille de Sarah ? Sachez que ce serait un beau titre. Si vous respectez votre mari dans le cadre du mariage, si vous adoptez une conduite pure et respectueuse, chaste, si vous ne cherchez pas à vous rendre belle seulement par les choses extérieures, encore une fois, il est bon qu'une femme prenne soin d'elle et qu'un mari aussi prenne soin de lui. Il ne s'agit pas de dire, bon, maintenant qu'on est marié, on n'a plus d'efforts à faire pour plaire à l'autre. C'est toujours agréable d'avoir quelqu'un qui se présente bien au quotidien en face de nous, que ce soit pour l'un comme pour l'autre. J'aimais bien ce que disait un prédicateur américain un peu brutal parfois. Il disait, avec un accent du sud, « Si la grange a besoin d'être peinte, de grâce, peignez la grange. » Autrement dit, si vous avez besoin de bien prendre soin de vous, surtout n'hésitez pas à le faire. Et Sarah, encore une fois, n'était pas parfaite. On sait qu'elle manquait de foi, mais on sait que c'était une belle femme. Il est question d'elle dans Hébreux 11, le temple des personnes de la foi. C'était une femme d'une grande foi, malgré ses chutes dans sa foi. C'est elle qui a manqué de foi lorsque Dieu avait promis un enfant à elle et à Abraham. Elle avait dit, « Bon, mais c'est pas possible, donc prends ma servante, Agar. » Et on sait que c'est de là qu'est né Ismaël. Et peut-être jusqu'à aujourd'hui, le conflit entre les Arabes et les Juifs vient de ce manque de foi à un moment donné. Elle était, malgré cela, elle obéissait à Abraham. Obéir, c'est souvent l'idée de prendre soin d'écouter l'autre. En français, ça marche bien parce que quand on dit c'est un enfant qui écoute ses parents. Ça ne veut pas dire qu'il les entend, mais ça veut dire qu'il les entend et qu'il obéit à ce qu'ils lui disent. Et c'est la même chose, elle obéissait à Abraham. Et souvent ce qui compte, c'est que vous écoutiez votre mari. Elles étaient appelées, ces femmes, à faire le bien. Et elles n'avaient aucune crainte de l'avenir. Un des passages qui caractérise le mieux ce genre de femme, c'est Proverbe 31, qui nous décrit une femme qui mène sa maison avec une soumission entière à Dieu et qui prend soin de sa maisonnée et qui est une femme formidable. Si vous faites confiance à Dieu, vous le montrez en étant soumise, pas d'une façon abjecte encore une fois, mais en reconnaissant que c'est un ordre établi par Dieu et que si on suit et on respecte cette structure, le mariage va être plus fort, le mariage va durer, le mariage va être un lieu d'épanouissement de l'homme comme de la femme. Si la femme essaye d'être le chef aussi, le mariage devient un espèce de monstre à deux têtes. Dans le domaine physique, dans le domaine, j'allais dire, zoologique ou animal, un animal qui a deux têtes, c'est un monstre. Généralement, il ne dure pas longtemps. Et cette soumission respectueuse, confiante de ce qu'elle va apporter du bien parce que c'est Dieu qui la recommande, c'est Dieu qui la demande, elle peut être acceptée sans aucune terreur. Le mot crainte est très fort là, c'est que vous pouvez faire confiance à Dieu et vous soumettre à votre mari. Et c'est comme ça que lui va être gagné à vous-même. Il va à Dieu lui-même. Dans notre famille, on a un très bel exemple de ce genre de conduite. Une des nombreuses sœurs de Nancy, lorsqu'elles étaient tout vivantes, il y avait 9 filles et 3 garçons. Et Patty était une des premières à se convertir. Et malheureusement, entre guillemets, elle a commencé à fréquenter un jeune homme qui n'était pas chrétien. Et elle est tombée enceinte et elle a décidé qu'il fallait qu'elle se marie à cet homme qui n'était pas chrétien. Et toute la famille se demandait si c'était la bonne chose à faire parce qu'il n'était pas chrétien. Mais elle a vécu cette vie de conduite respectueuse. Elle a aimé son mari et elle a vécu devant lui une vie chrétienne fantastique, au point que lui, qui ne voulait rien savoir de sa foi, a fini par s'attendrir, s'adoucir. Pendant de nombreuses années, il l'a laissé aller à l'église, mais lui restait couché ou regardait les matchs de football, de baseball. C'était une épreuve pour elle, mais par la grâce de Dieu, cet homme est venu à Christ. Non seulement il est venu à Christ, mais il a vraiment embrassé la foi chrétienne de tout son cœur, au point qu'il est allé se former en école biblique, qu'il est parti comme missionnaire au Mexique, qu'il est devenu pasteur, qu'il a implanté plusieurs églises, qu'ils ont maintenant une superbe famille de 5 enfants mariés à des chrétiens et sont tous impliqués dans l'œuvre du Seigneur. On a des photos de cette famille, c'est une belle famille, c'est quelque chose de beau. Et ça a commencé parce que Patty a suivi ses recommandations. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous impose pour vous rendre la vie misérable, mesdames. C'est parce que c'est Dieu qui connaît le plan qu'il a pour la famille, le plan qu'il a pour les hommes et pour les femmes. Et ce qu'il peut faire si vous lui obéissez, c'est fantastique. Alors je sais que ça va contre ce qu'enseigne notre société, ça va contre ce que les féministes, les magazines, les journaux de mode, les médias vous bombardent à longueur de journée avec des choses contraires à cet enseignement, mais on voit que le résultat n'est pas brillant. Le taux de divorce sont un plus qu'ils ne l'ont jamais été. Les gens ont tous besoin d'aller voir le psychologue parce que ça va mal. Dieu a un plan pour le mariage et c'est un plan qui, encore une fois, cette soumission respectueuse des autorités, que ce soit le gouvernement, l'employeur, le mari, cette soumission, elle produit de beaux fruits. Ce n'est pas fait pour, encore une fois, pour vous rendre la vie misérable. On a trop peu de temps pour parler maintenant de ce à quoi le mari est appelé. Donc on va faire ça la prochaine fois. Je pourrais le bâcler, mais je crois que ce ne serait pas juste vis-à-vis de vous, mesdames, et vous aussi les maris. On parlera de ça la prochaine fois. Alléluia. Amen. Prions. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu d'amour et tu as de bons plans pour nous les hommes. Tu veux notre bien, tu veux notre bien-être. Et tu sais aussi que c'est ce bien-être, cette beauté des mariages chrétiens qui peut attirer ceux qui sont autour, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas. Cette humilité, cette soumission, Seigneur, elle est source de témoignage de celui qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Une lumière admirable, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de nous parler, de continuer à nous parler, Seigneur, et de ne pas nous dérober à nos responsabilités, que nous soyons maris ou femmes. On verra la prochaine fois ce à quoi tu appelles le mari, Seigneur. Sois béni, Seigneur, parce que ta parole est la vérité et qu'elle porte du fruit dans nos vies. Te le demandons dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.